comprends pas. Je ne comprends pas.
Je vais vous l'expliquer en une minute au tableau noir.
Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici et à qui ai-je l'honneur?
Son vrai nom, je ne le connais pas, mais par ici, on le connaît sous le nom de...
Professeur?
Ensemble sur Calade.
Le prof.
Alors attention, hein. Pas docteur, hein. Professeur. Mais...
Monsieur le professeur.
Allez, c'est l'heure de retrouver le prof Patrick. Bonjour.
Salut Mathieu, salut les auditeurs.
Ça va bien en forme?
Ça va bien, ça va bien. J'ai la forme et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très français, le chômage.
Ah bon, c'est très français le chômage?
Ben ouais, c'est très français cette bonne blague. Bon, écoute, avant que je t'explique, je vais d'abord préciser. Je vais d'abord parler dans cette chronique aujourd'hui du chômage avant Covid, hein, d'accord? Donc du problème général du chômage. Et semaine prochaine, je parlerai du chômage, mais durant notre crise actuelle du Covid.
Très bien.
Ben oui, c'est très français parce que tu dois le savoir, Mathieu, les Français, on est nuls au niveau du chômage. On a des taux de chômage catastrophiques. Ouais. Alors, je t'explique, le dérapage, il a commencé il y a longtemps. Tu n'étais même pas né, puis loin de là, enfin, si, loin de là, il ne faut pas exagérer. C'était au début des années 80. Pour simplifier, ça commence en 1983 avec ce qu'on a appelé à l'époque le virage de la rigueur. C'est-à-dire que le gouvernement de l'époque, qui était le gouvernement de M. Mauroy, Premier ministre de Mitterrand, avait choisi de changer son fusil d'épaule et de combattre résolument l'inflation, c'est-à-dire la hausse des prix, l'inflation qui était forte depuis une dizaine d'années et qu'aucun plan n'arrivait à abaisser. Alors, ce combat va être couronné de succès, hein. L'inflation, elle va baisser peu à peu tout au long des années 80. Mais il va y avoir un prix à payer, c'est que le taux de chômage va monter et va rester en moyenne au-dessus de 8% de chômage dans les décennies qui vont suivre. C'est-à-dire qu'on est dans les années 80, et ben jusqu'à aujourd'hui, le chômage n'est plus descendu en dessous de 7%. Quand on est dans les bonnes années, il est entre 7 et 8, et quand on est dans les mauvaises années, il est au-delà de 10%. Et ça, on appelle ça le chômage de masse. Bon, tu vas me dire, bon, c'est bien triste, mais nos voisins.
Oui, pourquoi?
Nos voisins, ils font mieux que nous, mon gars.
Mince.
C'est vrai que c'est un problème français.
Ouais.
Je vais t'expliquer. Par exemple, le Royaume-Uni, la Suède, le Danemark, la Norvège, nos amis du Nord, et notre voisin allemand, en période où l'économie va bien, eh bien, leur taux de chômage, il n'est pas au-dessus de 7%, il est aux environs de 4%. Des fois, il est même sous les 4%. Alors, je vais te donner des chiffres précis pour te donner une idée. Prenons l'année 2019, juste avant le Covid. En France, notre taux de chômage était de 8,1%. En Allemagne, le taux de chômage était de 4,9%. Au Royaume-Uni, de 4,2%. En Suède, de 6,3%. Au Danemark, de 5,8%. En Belgique, de 5,5%. Et aux États-Unis, de 3,5%. Donc, Mathieu, le match est plié. Les Français, on est nuls au niveau du chômage.
Ah oui. On peut voir le contraire, on est très bon.
On est très performant au niveau du chômage. On arrive à maintenir un bon taux de chômage. Oui, on pourrait dire ça si on a un peu d'humour. Bon, allez, Mathieu, je passe à la deuxième partie. Sauf que, tu l'attendais, mon sauf que.
Ouais.
Tu as l'habitude des sauf que. Ben, je vais exagérer un petit peu. Tout ça, c'est bullshit et compagnie. Voilà.
Mais pourquoi ?
Je force un peu le trait, mais je vais t'expliquer pourquoi je trouve que c'est bullshit et compagnie. Deux choses sont à prendre en compte. Un, le calcul des taux de chômage, du taux de chômage, résulte de tout un tas de règles, de conventions qui sont définies de façon un petit peu arbitraire. Ces conventions pourraient être différentes. Mais ça, ce n'est pas un argument suffisant parce que globalement, malgré tout, on a à peu près les mêmes règles de comptage du chômage, même si des fois, il y a certains pays qui font des petites manipulations, mais je dirais, on a tous nos manipulations. Deuxième chose à prendre en compte, on peut choisir de mettre en place des politiques sociales explicitement dans le but de faire baisser ce taux de chômage. Alors bien sûr, ça implique des choix de société qui passent dans certains pays et qui passent plus difficilement dans d'autres. Alors Mathieu, ce qu'on va faire, c'est que je vais te nommer grand cuisinier et je vais t'apprendre la recette pour présenter un taux de chômage plutôt bas.
Très bien, ah bah, je suis curieux de savoir.
On y va, t'as mis ta toque de cuisinier,
ça
c'est
y est.
Parti.
Sur mon tablier.
Premier point, plutôt que de laisser les gens au chômage, tu vas les forcer par divers moyens, on expliquera lesquels, à accepter des emplois à temps partiel court. Ouais. Ce que j'appelle le temps partiel court, c'est moins de 20 heures par semaine de travail.
D'accord. Emploi précaire.
L'Allemagne, la Norvège, le Royaume-Uni, le Danemark et la Suisse ont par exemple tous entre 13 et 15% de l'emploi total en temps partiel court. Mmh. Le champion, c'est les Pays-Bas, ils sont à 20%. La France, elle est à 5%. Ça, c'est les chiffres entre 2010 et 2014. Alors, cette mécanique, elle est imparable, en fait, parce que si on réduit le nombre total d'heures de travail effectuées chaque année par ces salariés en temps partiel court, et qu'on répartit ces heures sur plus de salariés, bah, mécaniquement, on crée plus d'emplois. Donc, mécaniquement, le chômage baisse. En fait, c'est une forme imposée de baisse du temps de travail. Sauf que là, il y a un prix à payer, c'est que généralement, il y a une augmentation du niveau de pauvreté de la population en contrepartie.
Ouais.
On s'en fout, le taux de chômage a baissé.
Oui, l'indicateur, il va bien.
Eh ben voilà, exactement. Deuxième ingrédient de ta recette, cher cuisinier, comment on fait pour les forcer à accepter ce genre de temps partiel court? Eh bien, on va mettre en place des lois plus libérales. On va prendre l'exemple des célèbres lois Hartz de 2004 de l'Allemagne. À l'époque, l'Allemagne, ça rigolait pas trop, le taux de chômage était à 11%. Eh bien, les lois Hartz en 2004 en Allemagne, elles ont facilité l'usage des CDD pour les entreprises, permis pour les petites entreprises une gestion des licenciements très, 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 très simple. Pour les chômeurs de longue durée, ils ont instauré ce qu'on a appelé des mini-jobs, c'était des jobs à temps partiel payés 400 euros par mois. Et aussi, toujours pour les chômeurs de longue durée, des jobs payés 1 euro de l'heure. Bon, en parallèle, ils ont fliqué les chômeurs en durcissant et en diminuant les conditions d'indemnisation. Ils ont renforcé les contrôles et à la clé, ils ont obligé les chômeurs à accepter assez vite n'importe quoi comme proposition. Conséquence, en Allemagne, à partir du moment où ces lois sont promulguées, donc à partir de 2004, donc en 2005 et les années suivantes, 50% des emplois créés dans les années suivantes seront des emplois à temps partiel court. Alors, résultat des courses. En Allemagne, en 2014, 9 ans après cette loi ou 10 ans après cette loi, 22,5% des salariés allemands étaient devenus des travailleurs pauvres contre seulement 8,8% en France. Et le taux de pauvreté global en Allemagne est passé donc de 2005 à 2015, dans ces années-là, de 12,2% à 16,7%.
Ah oui.
Eh oui. Les autres pays là, que j'ai cités, parce que là, je parle que de l'Allemagne, parce que comme ça nous fait un exemple précis, mais les autres pays, Royaume-Uni en tête, il faut savoir qu'ils ont tous adopté ce type de mesures dans les années 90-2000. On peut citer, par exemple, pour le Royaume-Uni, un contrat très célèbre qui est le contrat zéro heure. T'es salarié, t'as signé un contrat de travail, ça s'appelle un contrat zéro heure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'une semaine à l'autre, tu sais jamais combien d'heures tu vas faire. Tu peux faire un temps plein, tu peux faire un mi-temps, tu peux faire zéro heure. En tout cas, t'es pas comptabilisé comme chômeur, mon gars.
Ah non, t'as un emploi, ouais. D'accord. Super.
Exactement. Alors, pour revenir à notre voisin allemand, qui nous rend si nuls hein, quand on se compare à eux avec leur 4% de chômage, je vais rajouter un troisième ingrédient dans la recette de cuisine qui leur permet de faire baisser le chômage. Par contre, ce troisième ingrédient, Mathieu, on n'en dispose pas en France, tu vas comprendre pourquoi. Pour comprendre ce troisième ingrédient, je te fais un petit rappel d'abord. Le taux de chômage, c'est quoi? C'est le nombre de chômeurs divisé par la population active. La population active, c'est le nombre de gens qui cherchent du boulot activement et ceux qui ont un boulot. La question qu'il faut se poser, c'est comment elle a évolué la population active en quantité depuis 30 ans en Allemagne?
Elle a diminué. Je crois qu'ils ont un problème de vieillissement, les Allemands.
Ils ont un problème de vieillissement. T'as mis le doigt là où ça fait mal. Elle n'a pas diminué pour autant parce que malgré tout, ils font encore un peu de gosses et malgré tout, il y a aussi de l'immigration. Mais elle n'a pas augmenté beaucoup par rapport à la France. Entre 91 et 2016, sur 25 ans, la population active allemande a augmenté de 6,5%. La population active française a augmenté de 14,5%.
Oui.
Cette différence, ça fait tout simplement 1 million d'emplois de plus en France qu'il fallait trouver pour nourrir cette population active, sans parler des autres qu'il fallait trouver encore pour baisser le chômage au-delà de donner du boulot à la population active. Par exemple, sur cette période 91-2016, les deux pays, France et Allemagne, ont créé à peu près le même nombre d'emplois. Ils ont créé 2,75 millions d'emplois. La seule différence, c'est que l'Allemagne est un pays qui compte 83 millions d'habitants et la France, un pays qui compte 67 millions d'habitants. Donc, l'exploit de créer 2,75 millions d'habitants est plus important du côté France que du côté Allemagne. Il y a un économiste de Xerficanal que j'ai déjà évoqué qui s'appelle Alexandre Mirly-Courtois qui a fait un petit calcul. Si la France avait, sur ses 25 ans, 91-2016, eu la même évolution de la population active que notre voisin allemand, eh bien le taux de chômage en France serait en 2016 de 3,8% au lieu de 10%.
Juste en changeant la population.
Juste avec la même évolution de population active que l'Allemagne, on aurait eu un chômage en 2016 de 3,8%.
D'accord.
Et si on fait l'exercice inverse, si l'Allemagne avait eu la même augmentation de population active que la France entre 91 et 2016, l'Allemagne aurait eu non pas 4% de chômeurs, mais 11,1% de chômeurs.
Ah oui, fait mal.
Donc voilà la recette, Mathieu. Hein. Tu veux faire baisser le chômage, tu flexibilises à mort et tu imposes à ta population des jobs à temps partiel réduit. Mmh. Tu crées bien sûr massivement des bataillons de travailleurs pauvres, mais ça, on s'en fout, ça te fait un taux de chômage faible.
Ce taux de chômage faible, pourquoi est-ce que les pays préfèrent un taux de chômage faible et de la pauvreté plutôt que le contraire? Enfin...
Parce que c'est une philosophie, idéologie qui consiste à dire, bon, ben... On fait en sorte que tout le monde bosse, même si c'est des boulots d'esclaves, c'est pas grave, c'est leur problème, hein, c'est la responsabilité individuelle, vous avez qu'à être meilleur pour trouver de meilleurs boulots. Nous, notre boulot, c'est que l'économie produise assez d'emplois. Voilà. Ça, c'est la philosophie libérale qui est les États-Unis, alors j'en ai pas parlé beaucoup, c'est encore plus particulier les États-Unis, mais c'est la même philosophie. Hein. Ça consiste à dire, voyez bien, notre système économique peut produire des emplois. Ouais. Ces emplois de merde, bah, c'est votre problème, c'est que vous n'êtes pas assez performant. Oui. Alors en 2018, je finis avec un petit truc qui est intéressant. En 2018, il y a la revue Alternative Économique qui a fait un petit indicateur. Alors malheureusement, ils ne l'ont pas poursuivi dans la durée, c'est dommage. Ils ont créé un indicateur qui s'appelait le taux de non-emploi en équivalent temps plein. En gros, c'était un taux qui donnait non seulement un pourcentage de chômeurs, mais aussi de gens qui n'arrivaient pas à avoir un temps plein alors qu'ils le voudraient. Mmh. Eh bien, je vais te donner les chiffres de trois pays, donc la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne. En 2018, la France avait ce taux de non-emploi en équivalent temps plein, un taux de 27,3%, le Royaume-Uni 27,6%, l'Allemagne 28,2%. Bref, c'était kiff-kiff bourricot ces trois pays.
Finalement, peu importe le taux de chômage, c'est,
voilà. Ça se c'est un choix de maquillage qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Ouais. La réalité, c'est que depuis la fin des années 80, le système économique occidental n'arrive pas à créer suffisamment d'emplois décents pour tout le monde. Et ça, c'est vrai pour tous les pays développés.
Ouais. J'ai lu quelque part que c'était intéressant aussi dans un système capitaliste qu'il y a un petit peu de chômage, ça permet de faire des emplois qui ne sont pas trop chers quoi, pour les employeurs.
Bah oui, un volant de chômage, c'est toujours utile pour négocier avec les salariés. Alors, non, t'es pas content, j'ai des chômeurs derrière qui peuvent prendre ta place, alors ferme-la. Ouais, c'est une arme de négociation.
Ça reste pratique. Bon, très bien. Merci beaucoup, prof Patrick. On se dit à la semaine prochaine. Et donc, la semaine prochaine.
Pour la suite de cet épisode, semaine prochaine. Merci, Mathieu. Salut, les auditeurs.
Le chômage pendant le Covid. À bientôt, prof Patrick. Ciao, ciao.
Ensemble, sur Calade.